Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. Et j'ai plusieurs choses sur mon cœur ce matin, et j'aimerais vous les partager. Ésaïe 7, 14, vous connaissez ce verset. C'est un contexte un peu international, très délicat, au temps d'Ésaïe. C'est un temps où les nations sont ébranlées. C'est un temps d'incertitude, c'est un temps d'insécurité. Et il est dit ceci, verset 7, chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Absolument étonnant, cette prophétie en plein milieu d'un contexte qui semble ne pas du tout annoncer Noël ou une bonne nouvelle, c'est plutôt un contexte de mauvaise nouvelle. Et tout d'un coup, au milieu, il y a comme une lumière qui jaillit, et voilà la parole de Dieu. Le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, est déjà annoncé. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur le mot « signe » aujourd'hui, et j'aimerais développer ça, parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est très important. Nous sommes tous environnés de signes, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, quand vous conduisez une voiture, il y a les signaux. Quand vous allez dans les magasins, il y a les enseignes. Il y a des signaux partout, les enseignes des magasins. Les étoiles, longtemps, dans la marine, ont aidé à guider les navires par les étoiles, donner des repères. La Bible dit, dans Genèse 1, 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes, pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Donc des signes, vous voyez. Les étoiles ont été créées par Dieu pour être des signes, pour se repérer. Le mot signe, c'est aussi très proche du mot rendez-vous. Donc nous avons ici vraiment une idée de Dieu. Dieu fait signe à l'humanité par sa création. Genèse 9, 12, vous connaissez tous, avec Noé, l'alliance avec Noé. Le signe de l'alliance, ça va être l'arc-en-ciel. Dans Exode 12, 13, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Le signe sur les maisons, ça va être le sang de l'agneau mis sur les maisons. Et l'ange de la mort qui passe, il voit ce signe et il n'y touche pas. Le signe de la circoncision pour le peuple juif, le signe de l'alliance. Dieu est un Dieu, c'est pas quelqu'un qui est dans les nuages et qui n'a pas besoin de choses concrètes. Dieu utilise toujours des signes concrets pour parler de lui et de ce qu'il veut. Il les prend dans la nature, dans la création, et il les prend dans ces domaines qu'on voit ensemble. Nous sommes des signes, est-ce que vous le savez? La Bible dit, on voit ça dans Ézéchiel plusieurs fois, par exemple Ézéchiel 12, 6, « Je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. » Donc, chaque chrétien est appelé à être un signe dans ce monde. Donc, le signe d'Emmanuel est un signe parmi beaucoup de signes. C'est le signe le plus important. Mais c'est un signe qui nous parle de l'espérance, qui nous parle de l'incarnation, mais qui nous parle aussi de la possibilité pour nous, à cause d'Emmanuel, d'être ces signes pour les autres. Donc, tout à l'heure, on parlait de la manifestation. Nous sommes dans un monde qui ne veut plus de signes. On va le voir tout à l'heure. Alors, le signe de l'étoile, tout le monde le connaît, c'est la période de Noël. Les mages ont su observer la nature. Ils ont observé. Et on peut dire que c'était les astronomes de l'époque, pas seulement des gens dans c'est pas l'occultisme ici, ils connaissaient très bien les étoiles. Les Égyptiens d'ailleurs connaissaient le ciel beaucoup mieux que la plupart d'entre nous, pas les scientifiques, je parle, mais le commun des mortels. Donc voilà, ils ont dit, nous avons vu une étoile, son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Le signe de l'étoile. Ils ont su discerner un signe. Matthieu 2, 9, 10. Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Donc ce signe, ça amène la joie. Psaume 19. Les cieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent la gloire de Dieu. Il raconte la gloire de Dieu. Donc, la création entière est un signe. Je vous rappelle l'extraordinaire passage de Job. Job accablé. Job qui a perdu femme, enfant, qui était malade. Job qui était vraiment, il a perdu ses amis qui devaient l'encourager, il le décourageait. Il était tout seul. Et il y a un moment, Dieu prend les choses en main. Il prend les choses en main et il dit, Job, il lui dit pas, mon petit Job, je vais te consoler. Non, non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit à Job, regarde la création. Regarde la création. C'est étonnant comme consolation quand même. Regarde, observe la création. Regarde les crocodiles. Regarde les hippopotames. Au quotidien, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ta consolation maintenant. Mais Dieu dit, regarde la création. Et chapitre après chapitre, la création parle de Dieu. Et à la fin, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, son œil? Il y a les gens qui pensent que c'est les yeux du cœur. Ce n'est pas seulement les yeux du cœur. C'est vraiment les yeux-là qui ont vu Dieu. Où ça? Dans sa création. Donc aujourd'hui, de la même façon que pour la famille, il y a une œuvre de destruction. Il y a une œuvre de destruction au niveau de cette notion de création. Et les gens disent, dans les universités, dans les écoles, il n'y a pas de création. D'accord? On redit ça. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de créateur. Tout ça, c'est... Alors, on apprend comme ça. Et on enlève les signes. Et la création qui était destinée à parler de Dieu, on lui dit, elle ne dit rien du tout. Elle ne parle pas. Les cieux ne racontent rien. Et ça, c'est la tragédie. Et c'est pourquoi, eh bien, nous voulons être ces signes avec Dieu, ce signe qui retrouve le Créateur derrière la création, qui retrouve un sens aux choses, de façon à ce qu'on puisse dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Mon œil te voit quand je vois mon frère et ma sœur à ton image. Mère Teresa, rappelez-vous, à Calcutta, quand elle prenait les lépreux dans ses bras, un journaliste lui dit, mais comment vous pouvez faire ça? Et elle dit simplement, bah parce que quand je vois un homme, qui soit lépreux ou pas, qui est dans cette douleur, je vois le Christ, et c'est le Christ que j'embrasse. Et ça, elle a vu le Christ dans une créature. Eh bien, ça, c'est la clé de l'adoration. On reconnaît le Christ derrière ses ouvrages, en chacun des frères et sœurs. On reconnaît les signes de Dieu. Voilà, ensuite, je vous citerai André Marie Ampère. Est-ce que quelqu'un le connaît? André Marie, c'est un drôle de nom. Hein? André Marie Ampère. C'est qui ça? Voilà, c'est bien. On a le prof de physique là qui réagit, c'est bien. Voilà, oui, il y en a d'autres. C'est un physicien mathématicien français, père de l'électrodynamique, inventeur du premier télégraphe. Son nom a donné l'unité, l'ampère, l'unité internationale d'intensité du courant électrique. Écoutez ce qu'il a écrit. Étudie les choses de ce monde. C'est le devoir de ton état. Mais ne le regarde que d'un œil. Que ton autre œil soit constamment fixé sur la lumière éternelle. Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille. Et que l'autre soit toujours prête à recevoir les 12 accents de la voix de ton ami céleste. N'écris que d'une main. Et de l'autre, tiens-toi aux vêtements de Dieu, comme un enfant se tient aux vêtements de son père. Que mon âme, à partir d'aujourd'hui, reste ainsi unie à Dieu et à Jésus-Christ, en père. Ça, c'est de l'adoration. Ça, c'est de l'adoration. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un texte dans les Actes des Apôtres, le texte de Paul, vous savez, quand il est dans son bateau, il y a une tempête, acte 27, et puis, voilà ce qu'il dit, je résume un peu, ils se croyaient maîtres de leur dessein, donc ils ont levé l'ancre, ils ont dit on va y aller. Paul a dit attention, ça va être dangereux, ils ont dit mais non, on va y arriver. Et le navire a été entraîné sans pouvoir tenir contre le vent. Et il dit, ils sont allés à la dérive. Et la Bible dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Donc ils ne pouvaient plus se guider. Plus de soleil, plus d'étoiles. La tempête. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Voyez, la perte des repères fait qu'on ne sait pas où aller. Dans une société, c'est pareil. La perte des repères, et le petit jeu de mots que vous connaissez, mais la perte des pères aussi, les pères qui ne sont plus là. On ne sait plus où aller. Et alors, ça sera au vent des majorités. c'est la démocratie, hein, donc la majorité dit ça c'est le repère, et donc ça va être le nouveau repère. On dira le contraire dans 20 ans, eh bien, ça sera le nouveau repère. Et on est ballotté comme ça, parce qu'on refuse une encre solide. Dans Psaume 74, versets 3 et 4, il est dit « Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur propre signe. » Ils ont établi pour signe leur propre signe. Le temple est dévasté, la maison est dévastée, l'ennemi a ravagé. Psaume 74, versets 7 à 9. « Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sait jusqu'à quand, etc. » Donc ça, c'est vraiment la description dans la parole de Dieu, dans l'histoire d'Israël. Il y a eu des temps où les gens n'ont plus voulu de signes. Et c'est dans ces temps-là où Dieu dit, voilà, moi je vais vous donner un signe. Et le signe, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, notre signe. Luc 2, versets 8-14. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici, un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Donc vous voyez, les signes, qui c'est qui les ont vus, ces signes? Ce sont les bergers. Les bergers en Israël, c'était ceux qu'on méprisait. C'était vraiment la plus basse, la catégorie de la société. Ce sont eux qui ont vu les signes. Pour voir les signes, il faut des cœurs humbles. Il faut des cœurs qui ne se la pètent pas, comme on dit. Hein? Il faut des cœurs qui disent, la lumière, j'en ai vraiment besoin, je la recherche. Montre-moi, Seigneur. Et cette lumière de Bethléem, qu'on a répandue dans les villes de la ville, dans les rues de la ville, cette lumière-là, qui est celle dont Jésus dira plus tard, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière du monde, parfois on pense que c'est la lumière, vous voyez, pour l'Église, pour les chrétiens, la petite lumière comme ça, là, dans les petits lieux. Quoi. Mais cette lumière, mes amis, c'est la lumière qui éclaire toute chose, tout homme, toute parcelle de cette vie. Et tous les domaines de la science. En théologie, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité, Colossiens 2:9. En philosophie, Christ est le Verbe de Dieu, le Logos, Jean 1:1. En éthique, Christ est la lumière, Jean 1:9. En biologie, Christ est la vie, Jean 1:4. En psychologie, Christ est le Sauveur, Luc 1:46-47. En sociologie, Christ est le Fils, Luc 1:30-31. En droit, Christ est le législateur. Il est Genèse 49:10, Ésaïe 9:10. En sciences politiques, Christ est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Apocalypse 19:16. En sciences économiques, Christ est le propriétaire de toutes choses, Psaume 23:1-50:10. En histoire, Christ est l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1:8. En éducation, Christ est le seul maître, Matthieu 23:8, et etc., etc. Cette lumière de Bethléem, c'est le centre du monde, c'est la parole qui soutient toute chose, me dit la Bible. Et si on est là à vouloir l'ôter, d'ailleurs on ne peut pas, mais si on voulait, eh bien Dieu permet des sacrés ébranlements jusqu'à ce que le nez dans la poussière, on crie à Dieu, on dit « Seigneur au secours, on a fait des bêtises ». Et heureusement que Dieu est bon pour relever. Voilà. Donc être des signes aujourd'hui, être des signes de la lumière, ça veut dire reconnaître. On ne peut pas être des signes si on n'a pas reconnu le signe dans tous les domaines de la vie. On ne peut pas être des signes. Donc, le Seigneur, dans cette journée où on va fêter Noël, on se rappelle que ce signe, ça doit être moi aussi. Et ça veut dire que, Seigneur, aide-moi à discerner les signes dans tous les domaines. Christ est le signe du véritable leadership. Alors là, je vais faire une petite intrusion dans du Monroe pour vous donner goût un peu, hein, même si vous allez le revoir après. Nous sommes tous, Dieu nous a tous appelés, Genèse 1 et 2, à dominer, cultiver, prendre soin, mandat culturel, à gouverner. Ça, on le sait. Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confie des grandes. Si tu es fidèle dans le gouvernement, moi, je vais te confier le gouvernement de ville, rappelez-vous. La clé du leadership, c'est quoi? Et ce monsieur Monroe nous rappelle, il nous dit, c'est découvrir ton don. Et avec le don que tu as, tu sers l'humanité. En fait, c'est la clé du bonheur, ça. Il y a des gens qui cherchent le bonheur n'importe où. Le bonheur, c'est trouver son don et servir. Et ça, c'est le véritable leadership. Tu es leader de ton don. Et alors, découvrir son don, le servir. Alors, il y a beaucoup de véritables leaders, en fait, tous les véritables leaders, que nous sommes tous appelés à être, eh bien, ne cherchent jamais le leadership. Hein? Et l'exemple qu'il donnait, qui m'a beaucoup touché, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, il avait une passion, lutter contre l'injustice. Cette passion l'a conduite en prison. Il n'avait pas cherché à être leader, jamais. Mais c'est sa passion qui a fait qu'il est devenu leader. La passion fait qu'on devient leader. Jésus, quand on parle de la passion de Jésus, la Pâque, ça fait de lui le plus grand leader de toute l'humanité. C'est la passion qui fait de nous des leaders. Et alors, il donne l'exemple de Martin Luther King aussi, il n'a jamais cherché à être leader. Mais sa passion de lutte pour l'égalité, l'égalité entre noirs et blancs, etc., a fait de lui un leader. Sa passion pour aider ceux qui sont oppressés ont fait de lui un véritable leader. Dans Proverbe 18:16, il y a un passage assez incroyable. Écoutez ça. Le don d'un homme, c'est la version Darby que je prends, le don d'un homme lui fait faire place, lui donne la place, et l'introduit devant les grands. Donc en fait, le don que Dieu t'a donné, tu le mets au service des autres, sans râler à la française. Parce qu'il y en a souvent, ils ont un don, ils le font marcher et ils sont étonnés que les autres ne marchent pas avec. Et les autres, ils n'ont peut-être pas le même. Hein. Donc il ne faut pas râler. Il faut continuer à servir dans son don. Et ça ouvre la porte des grands. Le monde ouvre la porte pour les dons. Nous sommes bien au-delà de tout ce qui est éducation, tout ce qui est diplôme et tout ça. Le monde n'ouvre pas forcément à ces gens-là. Le monde ouvre quand il reconnaît un don. Et j'aimerais vous donner la définition qu'il donne et pour vous donner un peu le goût de ces formations. Le leadership est la capacité à influencer les autres au travers de l'inspiration, générée par une passion, motivée par une vision et née d'une conviction produite par un but. Alors voyez, chacun, homme, femme, enfant, on a à découvrir son but dans la vie. Et ce but, ça devient une conviction qui va donner une vision pour ma vie. Et ça crée une passion qui inspire les gens. Alors tu vas me dire, il faut découvrir ce don. Hein, et la Bible dit, chacun a reçu un don. Alors comment tu vas reconnaître ton don? Ça m'a beaucoup parlé. Comment reconnaître son don? Ah, mes amis, il y a plusieurs formules, je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une, mais là il en donne une intéressante. Et il dit ceci, ton don, c'est ce qui te met en colère. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ce machin? Ton don, c'est ce qui te met en colère. Nelson Mandela était en colère contre l'injustice. Le don qu'il avait, c'était d'amener la justice en Afrique du Sud. Martin Luther King était en colère contre les inégalités raciales. C'était son don. Mère Teresa, elle a dit un jour, je cite, écoutez ça, « Je hais la pauvreté. » Et elle dit, « Je détruirai la pauvreté. » Mère Teresa était une femme en colère. Et la colère, ça a fait son don. Eh bien, mes amis, est-ce qu'on est en colère? La question que je pose, est-ce qu'on est en colère? Pourquoi on s'efforce au niveau de Josué et de Caleb à faire ses travaux, parce qu'on est en colère contre une culture qui sent la mort. Et on a dit, nous, on veut proposer quelque chose d'autre. Alors, ce n'est pas étonnant que ça soit difficile. Ce n'est pas étonnant que ça soit des montagnes qui nous semblent impossibles à franchir. Mais cette colère, elle est là. Et on a dit, nous, on va faire la différence avec les dons que Dieu nous a donnés. Et on va proposer d'autres choses. Et je me rappelle quand nous étions dans la salle en face et qu'on entendait cette discothèque, boum, 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 sans arrêt. On a commencé à s'énerver. Rappelez-vous, là, les quelques-uns. On a commencé à dire, mais ça, il faut que ça soit pour nous. Et on a commencé à prier et on a réclamé. Et à l'unanimité, on a dit, c'est là qu'on veut aller. Et on y est allé. Donc, j'espère que cette colère, elle est toujours là. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Ce n'est pas maintenant. On a un don en tant qu'église locale. Et ce don, c'est notre vocation. Et notre vocation, eh bien, c'est être toucher le domaine culturel. Je vais en parler un peu aussi tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu vois ? La vision amène une passion. La passion, c'est quoi ? Et ça, c'est très, très intéressant, la passion. Jésus, la passion de Jésus, c'était quoi ? Mourir sur une croix. Ça, c'est ce qu'on appelle la passion. Il est mort. Il est mort. La passion, c'est la volonté de mourir pour ses convictions. C'est ça, la passion. Volonté de mourir pour ses convictions. La définition d'un leader, il disait, ne suis pas un leader qui n'est pas prêt à se sacrifier pour ses convictions. Alors ça ôte déjà beaucoup d'hommes politiques, ça. Hein, ça en enlève beaucoup. Ça écrème beaucoup. Il faut suivre ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour la vision et qui le montrent. Et ça, c'est un bon point. Jésus, quand il est venu dans ce monde, dans une étable, très peu de temps après, il a sa réunion avec ses disciples. Nous sommes dans l'évangile de Marc, au début des chapitres, écoutez ce qu'il dit. Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Au début de l'évangile, Jésus annonce sa mission. Je suis venu ici pour tout sacrifier. Dès le départ. Ses disciples n'ont pas cru. Mais ça, c'est ce qui fait le caractère du leader. Il y a une vision qu'on a reçue et on sacrifie tout pour la vision. Et c'est ça qui donne l'autorité. Donc ce n'est pas étonnant que chaque fois qu'il y a une vision, il y a un peu des contres. Et là, j'aimerais vous donner, alors il donne un exemple magnifique, je ne sais pas si tu te rappelles Pascal, pour illustrer ça, pourquoi es-tu prêt à mourir ? Est-ce qu'il y a un rêve qui est plus important que ta vie ? Question, est-ce qu'il y a un rêve qui est plus important que ta vie ? Ça, c'est une question. Alors, rappelez-vous Moïse. Dieu qui lui dit, Moïse, oui Seigneur, que fais-tu ? Ben, j'ai un travail, laisse-moi tranquille, moi j'ai une vie tranquille, j'habite, bon, on pourrait dire, nous, c'est en France, ça va, on râle un peu, mais c'est pas mal. Moïse, es-tu heureux ? Non, mais au moins j'ai un travail, j'ai une maison. Et Moïse, pourquoi n'es-tu pas heureux ? Alors, ben, écoute, il y a 40 ans, j'ai vu mon peuple opprimé et ça m'a mis en colère. Et j'ai tué l'Égyptien tellement j'étais en colère. Et je suis toujours en colère. Moïse, es-tu heureux ? Non, mais laisse-moi tranquille, j'ai mon boulot, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis bien dans le désert. Et Dieu, on pourrait imaginer Dieu qui dit, Moïse, ta colère, c'est le but de ta vie. Ta colère, c'est le but de ta vie. C'est-à-dire, délivrer le peuple d'Israël. Alors il dit, mais non, moi je suis qu'un fugitif. Si je retourne en Égypte, ils vont me tuer. Si je retourne en Égypte, ils vont me tuer. Parfait. Maintenant, tu es un leader. Ça, c'est incroyable, cette histoire. Et alors, je ne suis pas intelligent, je n'ai rien. J'ai épousé une femme noire, etc. Moïse, tais-toi. Je ne sais pas parler, j'ai un handicap. Moïse, tu es parfait pour ton but. Et là, il commence à dire, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Jusque-là, Dieu est patient, plein d'amour. Mais à partir du moment où il a dit, hé, plus moi maintenant, il y en a assez, c'est trop dur, envoie quelqu'un d'autre. Là, il s'est pris une gamelle. Hein. Là, ça a commencé à chauffer et Dieu s'est mis en colère. Il n'était pas en colère avant. Mais quand on dit, Seigneur, maintenant j'arrête, trouve quelqu'un d'autre. Mais le don que Dieu t'a donné, c'est toi qui l'as. Et ce don, tu en es responsable. Et ça fait la différence. Jésus est venu pour donner sa vie. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé en autorité, au-dessus de tout. Voyez, on a besoin, j'aimerais dire, pour chacun ici, le monde a besoin de toi. Et le monde a besoin de ton don. Et quand on fête Noël, on ne fête pas seulement le don de Dieu aux hommes, Emmanuel, mais rappelez-vous que chacun d'entre nous, on est un don pour l'humanité et pour cette société. C'est ça le sens de Noël. Que ça puisse nous interpeller. Jésus a dit, celui qui garde sa vie la perdra. Et Moïse, vous savez, à un moment, il a dit, bon, ok Seigneur, ils vont sûrement me tuer, mais j'y vais. Là, il était à point. Là, il est à point. Si on pense qu'on ne va pas perdre des plumes en marchant avec Dieu, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, il vaut mieux attendre. Mais quand on marche avec Dieu, ça sent le roussi, mes amis. Régulièrement, ça crame. Et tout à l'heure, on chantait « Embrasse-moi, Seigneur ». Vous chantiez avec tellement de joie. Embrasse-moi. Et quand Dieu met là le feu, on dit « Aïe, ça fait mal ». Il faut arrêter, mais il faut être conséquent. Hein. Voilà, donc Jésus a dit « Celui qui garde sa vie la perdra ». Je vous rappelle que le mot « vie » ici, c'est le mot « psyché ». Ses habitudes, ses façons de penser, tout ça. Voilà. Donc ça, ça me parle beaucoup. Et j'aimerais terminer par un autre signe. Et certains connaissent ici. Mais c'est le signe de l'enseignement. Vous savez, être enseignant, vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire porteur de signes. Le mot enseignant veut dire porteur de signes. D'accord ? On est des porteurs de signes. Pourquoi Jésus a confié le mandat de l'enseignement à l'Église ? Parce que c'est elle qui est un signe. Comment voulez-vous que des gens qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas reconnaître le Christ dans tous les domaines, comment voulez-vous qu'ils soient des signes pour les autres ? La Bible dit, les aveugles conduisent des aveugles. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, et on n'est pas la seule, heureusement, on a dit, Seigneur, on veut être un signe dans l'enseignement aussi. Et on veut exercer ce mandat afin que les enfants apprennent à reconnaître le Christ dans tous les domaines de la création, afin qu'ils glorifient Dieu. Et ça, il faut retrouver les signes qu'on a perdus et qu'on s'est laissé voler. Un jour, il y a des gens qui ont dit, maintenant, il faut enlever les signes. Il faut enlever la Bible, des écoles, des institutions, etc. On enlève les signes. Il n'y a personne qui râle. Tout le monde dit, bon, ben, c'est comme ça, ça c'est l'évolution. Il y a une colère qui est venue dans nos cœurs, en tout cas dans le mien, fortement. Et cette colère a fait qu'on s'est mis au travail. Et on continue le travail, envers et malgré tout. Nous sommes tués un signe. Et en ce jour de Noël, Jésus dit, je termine, Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, vous êtes un signe. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Matthieu 4, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et j'aimerais rappeler que cette lumière, c'est chacun de nous. Simplement, je propose qu'on prie maintenant, simplement. Et si on a besoin de se repentir par rapport à notre incrédulité, à nos déceptions, à tout ça, qui fait que la lumière est cachée, quoi. Eh bien, simplement, confessons-le à Dieu. Si nous ne sommes plus en colère, confessons-le à Dieu. Et je crois vraiment que c'est un péché de ne plus être en colère contre le mal, contre l'injustice, contre tous les dérèglements. Seigneur, nous venons à toi et déjà, merci pour le signe que tu es. Merci pour ce signe, Emmanuel, dans notre vie. Et tu es venu jusqu'à nous, alors qu'on ne le méritait pas, Seigneur, mais tu es venu faire ton tabernacle, mettre ta lumière dans nos cœurs. Seigneur, nous avons compris que nous sommes appelés, nous aussi, à être des signes pour le monde. Je te prie ici pour chacun, pour tous les dons qui sont dans cette salle, les dons qui sont déjà actifs, les dons qui ne le sont pas encore. Seigneur, je te prie de raviver le don, les couleurs de nos vies. Je te prie de raviver la colère, non pas contre les gens, Non pas contre les gens, mais contre des situations. Contre des situations de cette société qui nous mettent en colère, Seigneur. Nous bénissons les gens, mais Seigneur, notre colère, elle est contre tout ce qui s'oppose à toi. Et Seigneur, en cette période de Noël, nous disons que ta lumière vienne et brille dans ce monde avec plus d'éclat. Merci pour ce que tu as fait dans cette ville de Guebwiller, toutes les églises réunies. Ta lumière a brillé, Seigneur. Et nous croyons que c'est qu'un début. Et bien que ta lumière brille là où nous sommes, dans nos lieux de travail, dans nos familles en particulier pendant ces fêtes. Que ta lumière brille, Seigneur, et que ton espérance grandisse dans nos cœurs. Nous bénissons l'établissement Daniel dans cette période de Noël. Nous bénissons tous ceux qui ont relevé le mandat de l'enseignement et qui montrent un signe, le signe d'Emmanuel, partout dans ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Nous bénissons les professeurs ici, dans le public aussi, qui soient ces signes et ces lumières, Seigneur, dans ce monde. Merci Jésus, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Amen.